Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Irung Mouchinge. Dans Grand Témoin aujourd'hui, André Kitenge reçoit Marguerite Niki Imayonda, ancienne présidente provinciale de l'AFDEL, province orientale, plusieurs fois ministre provincial de la province orientale sous les gouverneurs Médar Aouchai et Jean Bamanissa, et députée nationale honoraire. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Niki Imayonda Marguerite, bonjour.
Bonjour, monsieur André.
Niki Imayonda, et pour les intimes, comment on vous appelle?
Bon, les intimes m'appellent Magui, mais actuellement là, généralement on m'appelle par mon nom, Maman Niki. Je préfère mieux qu'on m'appelle Maman Niki parce que je suis maman, grand-maman, tout ça, j'aime bien qu'on m'appelle maman.
Maman Niki Imayonda Marguerite, vous êtes bien connue dans la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Parlez-nous un peu de votre vie d'enfance.
Mon enfance, j'ai passé mon enfance à Akéti. Et c'est là que j'ai commencé...
Dans le Bazouélé.
Et c'est là que j'ai commencé ma première année primaire. Après, il y a eu la guerre de 64. Et puis, on est resté en forêt, je ne sais pas pendant combien de temps. Parce que quand on est enfant, on ne sait pas vraiment évaluer le temps. Mais n'empêche qu'on a quand même fait longtemps en forêt. Et quand on a quitté la forêt, on a déménagé à l'Équateur. Parce que papa, mon père adoptif, il travaille à l'ONATRA. On est arrivé à Bumba. Et c'est là pratiquement que j'ai passé toutes mes études primaires. À l'Équateur, à Bumba. J'aimais beaucoup m'amuser. J'aimais le théâtre surtout. Que j'ai commencé depuis la troisième année primaire. Et ce goût-là me poursuit jusqu'à ce jour. Parce qu'au moment où je vous parle là, je suis toujours prête à remonter sur le podium si l'occasion m'est donnée. J'aime le théâtre parce que c'est aussi grâce au théâtre que j'ai été ouvert, en tout cas au monde politique. Et ça, c'était quand je travaillais déjà. Parce qu'après le primaire, je suis allé au Bandundu à l'internat pour les humanités. Après, je suis rentré à Kinshasa pour les études supérieures à l'Institut Pédagogique National. Et après le premier cycle, on avait commencé la première licence, on a blanchi l'année académique. À l'époque de la Deuxième République, je suis rentré à Bumba parce qu'on renvoyait tous les étudiants dans leur milieu de vie.
Et là, nous sommes à quelle année?
On est en 81. Oui, je suis rentré à Bumba, j'ai donné cours à l'Institut Technique et Industriel de Ebonda. Actuellement, c'est devenu Ista Ebonda. Oui, mais le secondaire est toujours là. Oui, j'ai donné cours et puis bon, il fallait que je me trouve un job parce que papa était déjà retraité, fatigué déjà, maman aussi fatiguée. Alors je me dis, il faut que je travaille avec mon diplôme de graduat, je peux travailler. Oui, et j'ai été recruté pour la voirie et assainissement. Et j'arriverai à Kisangani pour la première fois, en 83. Les études, j'avais déjà suspendu. Ouais, j'arrive ici, à la voirie et assainissement. J'ai découvert deux choses. Les délégations syndicales, il fallait participer aux élections. Sans savoir exactement ce que je devais faire. Mais si ce n'est que défendre les travailleurs. Et je me suis engagé aux élections et j'ai battu un monsieur qui était là. Il était mécontent, mais j'étais élu. C'était en 84. En 85, je suis élu délégué syndical.
De quelle structure?
C'était le syndicat INTESA. Unique. C'était le syndicat unique. Union nationale des travailleurs du Zaïre.
UNTESA.
Ouais. Alors, je suis élu là-bas. Après, je découvre la deuxième chose. Il y avait une conversion. On pouvait se convertir et devenir technicien. Or, moi, j'étais simple agent administratif. Alors, j'ai posé le problème au directeur. Je dis, mais j'aimerais bien me convertir en technicien. Il était un peu surpris. Il dit, c'est vrai? J'ai dit, oui. Il dit, alors dans ce cas, je vais demander qu'on nous envoie le concours à ce moment-là. Et le ministère des Travaux publics envoyait le concours dans les services techniques, voirie, assainissement, en tout cas, et peut-être l'office des routes aussi, pour recycler les agents et les convertir d'autres. Alors, on a envoyé le concours, j'ai participé au concours, je me rappelle, on était environ 18 candidats, tous hommes, l'unique femme c'était moi. Je me rappelle encore que le chef de division des travaux publics de l'époque, d'heureuse mémoire, papa Mouagaloa, quand il m'a vu dans la salle, il me dit, tiens, mais qu'est-ce que toi tu viens faire ici? Je dis, tu vois bien que je viens participer au concours. Je viens participer au concours. Il dit, mais ça, c'est pas pour les femmes. J'ai dit, mais moi, je suis femme. Alors, j'ai participé au concours. Et de 18 personnes, 3 seulement ont été retenues. Deux messieurs, dont moi-même. Oui, je suis allé à Kinshasa.
Vous les avez battus à plate couture, comme on le dit.
Je suis allé à Kinshasa pendant 12 mois et j'ai suivi la formation. Il y avait trois niveaux de formation, il y avait trois catégories de formation. On pouvait être formé comme technicien en pont et chaussée, on pouvait être formé comme technicien urbain et encore comme, bon, je me rappelle plus, ça fait longtemps. Hein. Voilà, moi j'ai suivi la formation de technicien urbain. Et j'ai fait ça et à la fin, j'ai brillé, j'avais distingué. J'étais sorti major de la promotion. Et quand je suis rentré à Kisangani en 87, parce que j'étais allé en 86, c'était toute l'année, et j'étais directement affecté chef de chantier assainissement. Mais voilà, technicienne. Et alors, je faisais la curiosité un peu de tout le monde ici. Alors, quand on me posait des questions, je disais, mais appelez les journalistes pour que j'explique comme ça. Je vais expliquer une bonne fois pour toutes. Finalement, mon directeur, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, je ne me rappelle même plus son nom, il a dit, non, mais quand vous faites la curiosité de tout le monde sur la route, vous rentrez au bureau. Et je suis rentré au bureau, j'avais commencé un travail là, qui était sollicité par la Sauteski. Sauteski voulait étendre les logements de ses agents, cette fois-là les agents de cadre. Il ambitionnait d'acheter un terrain là-bas, au-delà de la Sauteski, pour y ériger des constructions, des bâtiments, des maisons d'habitation pour ces cadres. Alors, ils ont envoyé un projet pour demander de leur faire un plan d'assainissement, un plan de drainage de la partie là. Et on me confiera ce travail. Alors, mon chef de division, qui est un ingénieur, je mets topographe, me dit, mais est-ce que vous saurez faire ce travail? Je dis oui, je venais d'apprendre ça. Je venais fraîchement de la formation et j'ai commencé le travail. La ville de Kisangani n'a pas des abacs. Hein. À Kinshasa, on a des abacs, c'est-à-dire qu'on a calculé les niveaux de pluviosité pour 5 ans, 10 ans, 5 ans, de sorte que quand on veut, on ouvre un nouveau quartier, on peut facilement implanter les ouvrages, hein, avec certitude que ça pourra résorber les eaux d'écoulement, les eaux de ruissellement quand il y a de fortes pluies. Mais ici, il n'y en a pas. Et quand j'ai atterri ici à la division de météo, le chef de division me regarde et dit, mais vous venez d'où, madame? Personne n'est jamais venu chercher ce genre d'éléments ici chez nous. J'ai dit non, je suis technicienne nouvellement formée, on m'a donné un travail à faire. Ben, voilà un peu, j'ai fait ce travail. Et puis le chef a récupéré, il est parti avec.
À ce moment-là, vous êtes breveté en technique urbaine.
En technique urbaine, oui. Oui. Et à Kisangani ici, en tout cas, il n'y a que deux techniciennes urbaines ici à Kisangani pour le moment. Donc, des personnes vraiment qualifiées pour gérer la division de l'urbanisme.
Donc, vous êtes des personnes rares.
Oui, très rares. Il y a Ali Kapalata qui a terminé, qui a été de la même promotion que moi et moi-même. Les autres, bon, d'autres sont morts, que je connaissais, ils sont morts.
D'accord. Niki Imayonda Marguerite, Magui pour les intimes, vous avez occupé des fonctions politiques dans cette province. Lesquelles?
Oui, c'est vrai, hein. Et la première fonction politique que j'ai occupée, et la plus haute d'ailleurs pour moi, c'était la fonction de présidente provinciale de l'AFDL. C'était en 98. Et j'étais désigné après une réunion du directoire de l'AFDL à Kinshasa. J'étais désigné par le chef de l'État en personne. Et je vous dis que quand je me suis entendu désigner présidente provinciale de l'AFDL pour la province orientale, J'étais ému, mais je n'ai pas extériorisé cette émotion. Intérieurement, je me disais, moi, et c'était parti. Et on devait rentrer, essayer d'organiser la structure politique, chacun dans sa province et tout ça. Mais bon, et on ignorait totalement. Vous savez, les informations, c'est très important dans la vie. Nous, on ignorait totalement ce que planifiaient ceux qui avaient accompagné Mouzé dans la chasse contre la dictature. On ignorait totalement. Et c'est eux qui étaient avec nous. Non, allez d'abord, dès que vous serez arrivés, tout ça, on va vous amener, tout le budget était fait, tout et tout. Mais lorsqu'on est arrivé sur terrain, après qu'on ait évidemment commencé à utiliser le franc congolais, hein, c'était en juin qu'on avait lancé le franc congolais, et nous sommes rentrés, arrivés ici un mois seulement après, et le RCD est venu. Le RCD est venu nous chasser. Alors, on recherchait surtout les cadres de l'AFDL, mais personnellement, je n'avais pas aimé composer avec ce genre de choses et j'ai choisi la réclusion.
Vous vous êtes retiré de la ville ou bien vous êtes resté dans la ville?
Je suis retiré de la ville, dans la banlieue ici, j'étais dans la banlieue pendant un temps. Et après, j'ai entrepris de rejoindre Kinshasa. Je le faisais à vélo et parfois à pied et tout ça. Et j'ai beaucoup souffert.
Vous avez quitté Kisangani par quelle voie? En empruntant le vélo, en faisant le pied, vous avez emprunté quelle voie?
Bon, vous savez, je n'aime pas beaucoup parler de la voie que j'ai empruntée, hein. Parce qu'en quittant Kisangani, d'abord, je m'étais déguisé. Ce n'est qu'aux environs des Bouta là-bas, quand on avançait déjà vers le bas Zoulé, qu'une personne m'avait reconnu. C'était une femme, elle était dans un groupe d'hommes, tout ça. Alors, elle dira, quand je suis passé, elle était en train de dire, mais c'est pas la femme qu'on cherche là. C'est pas la présidente de la FD. Alors, les hommes, parce que dans les bourbiers, on descendait. Il fallait faire les pieds. On était à vélo. Quand on arrive dans un bourbier, on descend. Et pendant que je faisais les pieds, une femme m'a reconnu. Mais les hommes m'ont dit, non. C'est pas elle. Elle n'est plus ici. Elle doit être à Kinshasa avec Yagi et les autres. Alors que réellement, elle m'avait reconnu. Bien que je sois déguisé, c'était bien un peu en musulmane, tout ça. Mais je n'aime pas beaucoup donner mon itinéraire. Hein. Je suis politique. Mais j'ai souffert quand même la marche à pied, tout ça, vous savez, en ce moment-là, jusqu'à ce que je suis arrivé à Bangui.
Oui. En République centrafricaine.
En République centrafricaine. Le véhicule que j'avais pris à Bangassou, là, quand on arrive à Bangui, on demande à tout le monde de descendre. Je dis, moi, je descends à l'ambassade. Le type là me dit, je suis femme politique, je descends là. Parce que tout le monde, quand vous arrivez à la frontière, on croit que vous y allez pour vendre les minerais. J'ai dit, je suis femme politique, je suis réfugiée politique. Il faut me déposer à l'ambassade. À l'ambassade, j'arrive là-bas, on voulait me chasser de l'ambassade. On me dit non, en ce moment-là, le camp de réfugiés congolais qui était au port de la rivière, ici, de ce côté, et c'était au bord de la rivière Ubangi, on venait de déplacer le camp déplacé à 350 km. Alors, le chargé d'affaires voulait que j'aille là-bas. Et il a commencé à invectiver et ses collaborateurs en Kikongo là. Et j'ai réagi moi aussi à Kikongo.
Parlez Kikongo aussi.
Je parle couramment Kikongo, j'ai fait mes humanités au Bandundu. J'ai dit, mutakwenda kuna ve. Mouken keta politique, mutabika la kakao. Kana kufwa mufwa, mutakwenda kuna ve. Oh, il était surpris. Il dit comment? C'est une fille de chez moi. Alors il n'a plus rien dit, il est parti. Et on m'a trouvé un endroit. Je suis resté à l'ambassade pendant un mois. J'étais arrivé d'être très malade. Pendant un mois, je suis resté là-bas, tout ça. Et il y avait toujours les espions du MLC qui quittaient Zongo, qui traversaient. On est parvenu à enlever même la sentinelle de l'ambassade. Ce n'était pas une bonne situation. Et au bout d'un mois, quand on m'a posé des questions, on m'a posé quelques questions d'enquête, est-ce que je connais les cadres de l'AFDL, j'en ai cité quelques-uns, donc Kaïkou Mouimba, mon président. Alors, ils m'ont laissé tranquille. Je suis resté là et au bout d'un mois, j'ai embarqué dans un gros avion, une Hiroshima, qui a avalé dans son ventre deux camions MAN et deux Land Cruiser. C'était le butin hein, quand ils fouillaient de Zongo pour ici, quand les MLC étaient arrivés à Zongo là-bas. Alors, ils ont traversé avec tout ça. Alors, on a décollé, on est arrivé à Kinshasa. À Kinshasa, et c'est Eddy Kapenda en personne qui est venu. Et la personne.
Eddy Kapenda, l'actuel commandant région dans le Haut-Katanga.
En ce moment, il était aide du camp du chef de l'État, des musées, Laurent Désiré Kabila. Alors, il est arrivé au bas de l'avion. Il dit, est-ce qu'il y a une certaine Madame Niki là-bas? Je dis, oui, je suis là. Il dit, c'est la seule personne qui pourra descendre à l'arrêt de son choix. Je vous donne l'itinéraire. On était arrivé à 19h30. Je vous donne l'itinéraire. De l'aéroport jusqu'à Sendoué, nous prenons Victoire. Victoire, 24 novembre, Demiap. Donc, vous connaissez Kinshasa? Je dis, oui, je connais Kinshasa. Il dit, bon, vous choisirez là, vous allez descendre. Vous faites signe au chauffeur, il s'arrête et vous descendez. J'étais la seule personne qui était descendue. Les autres sont partis. C'est au bout de 3 mois que j'ai rencontré un tout maigrichon. Il dit, maman, il y a une semaine, je viens de sortir de Demiap. On a souffert.
C'est qui, celui-là?
Bon, je crois que c'était des militaires. Hein. C'était surtout des militaires, tout ça, qui étaient désarmés, qui s'habillaient en civil, qui habitaient l'ambassade là-bas. En tout cas, c'était des militaires. Et je suis resté à Kinshasa. Et à Kinshasa, il fallait maintenant que je rencontre ma hiérarchie politique. C'est que je n'ai jamais fait. Je suis allé pendant un mois, je ne faisais que défiler là-bas. Personne ne pouvait me recevoir. Et comme je ne connaissais pas beaucoup de nos frères d'ici, tout ça, mais eux, par contre, me reconnaissaient. Vous savez, quand vous êtes élevé, hein, les gens vous identifient facilement. Mais vous, vous avez difficulté à identifier d'autres personnes. Alors un jour, là, un citoyen me dit, un frère là, me dit, je crois que c'est un Kivoussien, il me dit, Dada, tes frères de la province orientale, là, ils se connaissent mieux avec le secrétaire. À ce moment-là, on avait déjà expédié l'AFDL, c'était le comité de pouvoir populaire, le CPP, qui était dirigé par Raphaël Guenda. Il dit, mais vous avez des connexions culturelles avec Raphaël Guenda, et ce sont les gens de la province orientale qui sont mieux cotés ici. Comment on ne vous facilite pas pour vous recevoir? J'ai dit, ah bon? Donc, ça veut dire que je suis bloqué. Alors je lui dis merci, je l'ai remercié. Je lui dis en tout cas, si le Seigneur a permis que je traverse la forêt équatoriale et arriver jusqu'ici, c'est qu'il y a un plan pour moi. Donc ces gens-là, c'est des méchants. Et ce jour-là, j'ai arrêté d'aller au secrétariat général. Ouais. Alors, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis j'ai tenté aussi de me faire payer parce qu'en ce moment-là, l'unique ministère qui payait facilement ces déplacés de guerre, c'était le ministère de la Santé de Macha Komamba.
Ah bon?
Oui, un déplacé de guerre qui arrive directement, on l'intègre et le mois prochain, il a son salaire. Mais mon ministère de l'Intérieur, lorsque je suis arrivé là-bas, c'est le directeur des services généraux là. Non, il ne voulait même pas me voir. Il me dit, mais les femmes ne fuient jamais la guerre. D'ailleurs, on ne maltraite pas les femmes pendant la guerre. J'ai dit, moi, je suis femme politique. En tout cas, il ne voulait pas me voir. Alors, je me suis dit, c'est fini. Et tant que tu ne m'auras pas présenté ton document d'admission sous statut, en tout cas, je ne te crois pas. J'ai dit, mais je suis partie de chez moi sans un seul papier. Il faut me croire. Je n'ai aucune raison de mentir. Mais il ne me croyait pas. Finalement, c'est un agent qui observait chaque fois mes arrivées là-bas qui me dit, mais maman, ton problème, c'est quoi? Je lui explique, il me dit, c'est en quelle année tu étais admis sous statut? Je lui donne l'année et il part dans les archives, il me donne la copie. C'est ainsi que je me suis fait ressentir au niveau de la fonction publique, tout ça. Et il a fallu attendre encore une année pour commencer à être payé. C'était pénible. À ce moment-là, déjà, Kinshasa, on disait, l'individualisme est en train de s'installer ici, les gens ne s'entraident plus, tout ça. Et voilà, et c'est comme ça que mon frère m'a mis en contact avec un évêque orthodoxe qui voulait recruter des femmes pour son ONG. Il dit, bon, tu ne peux pas rester comme ça. Il y a un évêque qui recrute les femmes. Et mon frère, là, il était de service. Quand je passe service, vous comprenez. Il dit, il y a un évêque qui recrute les femmes, en tout cas. Venez, je vous emmène là-bas. Vite, vite, je confectionne mon petit CV. J'arrive à Matongé, je fais dactylographie. Il y avait des dactylographes là-bas, avec les machines tant, là. Alors, j'arrive là-bas, j'ai fait ça. Quand je suis allé voir l'évêque, et il a vu le CV, il dit, président professeur de l'AFDL, qui t'a mis là-bas? J'ai dit, mais Mouzé, il dit, il vous connaît? J'ai dit, en tout cas, s'il ne me connaît pas physiquement, mais par le nom, il peut me connaître. Il dit, non, vous êtes une autorité. Vous savez, il me dira, vous savez, les personnes qui sont élevées là, dans la société, c'est des personnes qui sont choisies par Dieu, qu'ils soient bons ou mauvais. Et souvent, ils sont visionnaires. S'il a posé son regard sur vous pour faire de vous président de l'AFDL, c'est que vous avez des atouts d'être un haut responsable. Alors, vous allez lui écrire. Alors, moi, je me dis, moi, écrire au président? Il dit, comment?
Et encore un musée.
J'ai dit, il dit, ça vous... J'ai dit, moi, je n'ai jamais écrit à un président. Il dit, bon, alors vous allez écrire à son ministre de l'Intérieur. Mais n'accuse personne. Et j'ai écrit. L'objet de la lettre, SOS. J'explique comment, par refus de composer avec l'occupant, j'ai décidé de prendre ma réclusion, comment j'ai quitté les difficultés que j'ai connues et que j'avais besoin de travailler, tout ça, et que j'avais besoin d'un peu d'argent pour refaire un peu ma dignité. C'est tout ce que j'avais écrit. Et quand j'arrive, l'évêque me dit, qui a écrit? J'ai dit, mais c'est moi qui ai écrit. Il dit, oui, c'est vous. J'ai dit, oui. Monseigneur, c'est moi-même qui ai écrit. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé d'extraordinaire là-dedans. Mais bon, alors, c'était un vendredi. Il dit, venez avec la lettre très tôt le matin, à 7h. Parce que je vais remettre ça au ministre très tôt le matin. Parce que bon, s'il faut attendre plus tard... Alors, il est parti avec la lettre. Il a remis la lettre à Gaëtan. Là, Gaëtan... C'était le jour du Conseil des ministres. Gaëtan a passé la lettre au chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui aurait lu ma lettre au Conseil des ministres.
En plein Conseil des ministres.
Ça, c'est le témoignage de Mawampanga à qui il a demandé de me recevoir. Et voilà, c'est comme ça que je suis sorti du trou. Je suis sorti du trou et pour me récompenser, le président m'a désigné dans la commission de 30 pour sélectionner les candidats à la députation nationale au Parlement qu'il a délocalisé à Lubumbashi. Et donc, j'ai fait partie de la commission des 30. Et j'étais heureuse de découvrir que l'OGDEP a validé et certifié, en tout cas, ce qu'on devait nous payer, tout ça. Mais les amis qui sont à Kinshasa me disent que quand ils arrivent à l'OGDEP, l'OGDEP leur demande la liste de ces personnes-là. Mais est-ce que l'OGDEP peut valider une dette et la certifier sans avoir eu le soubassement? C'est ça ma question. Nous attendons, nous espérons que finalement on nous payera ça. Et c'est comme ça que j'ai été fait parlementaire, coopté. J'étais dans la commission défense et sécurité et j'étais rapporteur de cette commission. J'ai choisi défense et sécurité pour pouvoir. Pourquoi? Parce que je me disais, pourquoi notre
On est en 2006, hein?
Non, là on est en 2000.
En 2000.
On est en 2000. Okay. Oui. En 2006, c'était un deuxième cooptage. Là, c'était les composantes politiques qui avaient participé aux travaux à Sand City, tout ça. Et après, il fallait maintenant installer les institutions de la transition. J'ai été de nouveau coopté pour le Parlement national.
Le grand témoin.
Dans Grand Témoin aujourd'hui, André Kitenge reçoit Marguerite Niki Imayonda, ancienne présidente provinciale de l'AFDEL, province orientale, plusieurs fois ministre provinciale de la province orientale sous les gouverneurs Médard Aouchai et Jean Bamanissa, et députée nationale honoraire.
De votre retour à Kisangani, quelle est la première fonction qui vous accueille?
Bon, de mon retour,
la première fonction politique, bien sûr.
C'était le ministère provincial. Ouais.
Vous avez été ministre provincial.
J'ai été ministre provincial en charge de l'économie et portefeuille dans le gouvernement Aouchai. Et une année, deux années après, il m'a changé. Il m'a confié le portefeuille de travail, culture, art et tourisme. Et puis, au bout de quelques mois seulement, j'étais limogé.
Pour quelles raisons?
Je ne connaissais pas la raison. Je ne connaissais vraiment pas la raison, mais il m'a mis dehors.
Sans aucune raison.
Vraiment, apparemment, sans aucune raison. Mais c'est quand je suis arrivé à Kinshasa que l'on me dira que non, j'étais devenue arrogante et que je prétendais que je suis co-fondatrice de PPRD, que personne ne peut me faire partir. C'était des mensonges. D'autres me disaient que j'étais en train de chanter, que l'autorité avait posé son regard sur moi et moi, je ne voulais pas tout ça. J'ai dit, bon, bien que ce soit les discours que les femmes ont l'habitude de développer, mais je voudrais vous dire sincèrement que, en tout cas, l'autorité n'a jamais posé son regard sur moi. Je n'ai jamais su pourquoi on m'a fait partir, mais je suis parti.
Mais peut-être l'autorité pensait que tu avais un plan de pouvoir le renverser, de pouvoir occuper son poste et de le faire partir. À vous voir, parce que vous êtes une femme battante, bon, elle a vu que c'est un danger pour lui peut-être.
Bon. Pas vraiment un plan, mais j'avais le courage parfois de dire à l'autorité certaines choses. De lui faire voir, par exemple, qu'en tout cas, il faut qu'on améliore notre façon de travailler. Parce que, bon, les gens attendent de voir le travail. Ça, c'est comme j'avais fait aussi avec Madeleine qui était là. Je lui dis, faites attention, j'ai comme l'impression que vos très proches collaborateurs, par exemple, et peuvent vous créer parfois des ennuis sans que vous le sachiez. Et c'est courant dans notre pays, par la faute des collaborateurs, tout ça, tout retombe sur l'autorité. Hein. Mais bon, c'est ce courage-là de dire parfois la vérité. Bon, peut-être que ça ne plaît pas à nos autorités ici, dans notre pays.
Ouais. Alors, nous parlons toujours de votre parcours politique. Vous avez été dans l'AFDEL de Mouzé. Et quelques temps après, vous avez adhéré au PDC de Iléo.
C'était en 90, c'était après le discours historique de Mobutu, en avril, hein? Oui. 90. Oui, quand il a ouvert le pays au multipartisme, il y a eu foisonnement de partis politiques ici. Et moi, j'ai choisi le mien. Surtout parce que ça parlait de chrétienté. J'ai dit, ah, là où il y a des chrétiens, on peut pas commettre beaucoup de bévues. Parti démocrate social chrétien. J'ai adhéré là-bas, mais au bout de quelques deux ou trois ans, je suis parti parce que j'étais déçu. Parce que l'un des nôtres, des personnes qui nous servaient de référence, est parti et il nous a menti en disant que, permettez-moi le terme, en tout cas, en disant qu'il était recruté pour le PNUD. Alors nous nous sommes dit, ah, le PNUD c'est bon, parce que quand on parle PNUD, nous on voit de l'argent, on voit les financements qui peuvent tomber face comme ça. Alors qu'en réalité, il était plutôt, comment on dit, hein, il était débauché par l'impère. Il est rentré là-bas et on lui a donné des véhicules Pajero. Il a créé un parti politique. Et quand j'ai vu ça, ça m'a déçu. Je dis, ah, c'est donc ça. Alors je pars. En tout cas, j'ai démissionné sans crier garde, sans dire quoi que ce soit. Je suis parti et c'est en 97 quand l'AFDEL est arrivé. Ah, je me suis dit, il faut aller à la formation. C'était ici à la FRACO. On est venu à la FRACO suivre la formation. C'est alors que nous apprendrons les vraies raisons de la rébellion de 64. On ne connaissait jamais les raisons. Et pourquoi la révolution de 64 a échoué à cause toujours de nos faiblesses, nous les Congolais. Alors j'ai découvert, ah donc, c'était une cause noble, la révolution de 64. Voilà, et j'ai l'AFDEL. Et des fils en aiguille, tout ça, et on a créé le PPRD, j'étais cofondatrice, tout ça. Mais j'étais beaucoup marginalisée.
Mais pourquoi?
Je ne sais vraiment pas expliquer ça. Même quand il m'arrivait d'acheter un don à faire à la structure du parti, on n'acceptait pas ce don-là. Le chef du parti qui était là, et quand je parle comme ça, les gens peuvent imaginer de qui il s'agit, il ne voulait pas que j'émerge. J'étais combattue. Je comprends que même dans une famille politique, il y a une compétition, d'accord. Mais ça, ce n'était pas vraiment une compétition, c'était de la jalousie, tout simplement. De la jalousie. Alors c'est ainsi qu'en 2017... j'ai démissionné du PPRD.
Niki Imayonda était dans l'AFDEL, Niki Imayonda dans le PDC, et aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis dans l'UDPS. Parce que quand j'étais dans le PDC, l'UDPS, tous les partis d'opposition de l'époque étaient dans l'Union Sacrée, avec comme tête d'affiche l'UDPS. Alors je me suis dit, je vais dans l'UDPS. Parce que c'est un grand parti, c'est un parti qui a fait bouger le pays, c'est un parti, en tout cas, qui a fait des échos même à l'extérieur de notre pays. J'ai dit, c'est un parti démocrate, je vais dans l'UDPS. Et c'est depuis juin 2020 que je suis dans l'UDPS. Donc ça fait déjà 5 ans que je suis dans l'UDPS.
Est-ce que c'est par conviction ou bien c'est pour des raisons de positionnement politique? Une fois l'AFDEL semble sombrer, vous quittez ici, vous allez, aujourd'hui vous êtes dans l'UDPS parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir, peut-être vous envisagez encore des postes. Comment expliquez-vous tout ce mouvement-là?
Je vous ai dit que c'est depuis 2017 que j'ai démissionné du PPRD. Donc c'est en 2020 seulement que j'ai su aller adhérer à l'UDPS. Donc, c'était par conviction vraiment. Je me suis dit, il n'y a pas un grand parti politique comme celui-là. Je vais là-bas. C'est parce que l'UDPS était le porte-étendard de l'opposition. L'UDPS a tout fait pour porter la responsabilité de porte-parole de l'opposition au sein des institutions dans le pays. On n'a pas voulu parce qu'on craignait l'UDPS. L'UDPS était respecté. Mais ce que je constate aujourd'hui dans le comportement des combattants, des militants, c'est tout à fait le contraire. Et ça me donne beaucoup d'amertume.
Votre parcours scolaire, oui, mais parcours académique.
Après l'IPN, après le premier cycle à l'IPN, bon, c'est en 2015, parce que ici j'ai été avec Aouchaï comme chef du gouvernement provincial. Après Aouchaï, c'était Bamanissa. J'ai encore travaillé avec Bamanissa, qui m'a confié l'EPSP, l'enseignement primaire et secondaire professionnel. Et là, j'ai proposé la création d'un fonds professionnel de l'éducation qu'on appelle FOPED, et qui avait été vraiment accepté par le ministre Macaire de l'époque, qui a demandé aux autres ministres de dupliquer ça. Ça existe dans d'autres provinces dans le pays, si on vérifie. Parce qu'une fois, j'avais lu dans les réseaux sociaux comment on accusait le ministre de l'EPSP de Goma là, d'avoir tripatouillé avec l'argent des faux pères de l'âge. Parce que je me disais, l'enseignement, c'est une mission, l'éducation de la population, c'est une mission régalienne. Et si l'État a libéralisé l'enseignement, l'État ne peut pas ne pas être totalement détourné de sa mission. Il faut que de temps en temps il intervienne, surtout envers les partenaires privés qui s'intéressent du secteur. Il faut intervenir en cas de calamité, des dons en banque, tout ça, parce que c'est l'État qui forme sa population. Et j'ai créé les FOPED. Alors, ce n'est qu'après, quand on a démembré la province. Bon, on a amené les commissaires et tout ça. Je suis de nouveau rentré dans l'ombre. Et en ce moment-là, j'avais déjà démissionné du PPRD. Depuis 2017, 2018, 2019, ce n'est qu'en 2020 que j'ai adhéré à l'UDPS. C'est-à-dire que j'ai mûri ma décision. et je crois que je vais y rester parce que ce sont les hommes qui apportent des changements. En dépit de ce que je constate dans le chef des combattants, tout ça, parce que le travail ne se fait vraiment pas. Le travail ne se fait pas parce qu'il faut édifier le parti. Il faut asseoir le parti comme l'ANC était assis en Afrique du Sud. Ça ne va pas. Il y en a qui naissent toujours tous les jours comme des petits champignons, mais il n'y a aucun parti, il n'y a pas de sérieux, il n'y a aucun parti qui organise la formation pour préparer la conscience nationale. Des membres, tout ça, les membres servent juste des tremplins, malheureusement. Ça n'engage que moi, mais je le dis.
Avez-vous des enfants? Si oui, combien?
J'ai beaucoup d'enfants. Personnellement, j'ai donné la vie à 4 enfants, dont un était mort à la naissance. L'aîné, elle a une licence en pédiatrie. D'Elistem, et il est marié, mère de 5 enfants. Le second, il est avocat au barreau de la Gombe, père de 2 enfants. Et puis le dernier, il est médecin directeur à l'hôpital général de Bouta, père d'un enfant. Alors, les autres enfants là, ce sont les orphelins dans la famille qui viennent, on les prend en charge et tout ça. Ils sont 5, tout petits, hein, parce que je ne peux pas parler de ce qu'ils sont déjà majeurs, capables de pouvoir se débrouiller. Ils sont 5 pour le moment. Pour le moment, je suis redevenu encore. Et les petits-enfants qui m'entourent aussi, voilà, je n'arrête pas de continuer à m'entourer des enfants.
Alors, quelle a été ou quel était votre ami d'enfance que vous avez bien aimé?
Ami? Ah, non, non, non. Vous savez, hein, nous, quand on grandissait là, et mon père adoptif avait 5 enfants. Il ne voulait pas trop de contact avec les gens pour éviter peut-être le colportage entre ses femmes. Et nous, on jouait difficilement avec les amis dans le quartier. Parce qu'on rentre à la maison, on reste dans la parcelle. On ne jouait qu'à l'école. J'ai connu des amis de l'école, mais je n'avais eu jamais d'attachement comme ça. Très, très fort, non. Mais je connais les amis de l'école, je les connaissais. Mais parler d'amis d'enfance, attachés...
Encore en vie que vous connaissez, est-ce que aucune idée?
Peut-être Jeanne, hein? Jeanne qui est à Isiro, avec qui j'ai commencé la première année.
Jeanne qui?
Jeanne Alanzoko, l'épouse de notre défunt frère, la mère de docteur Mambandou Germain, en première année secondaire. Avant d'aller au Bandundu, j'ai commencé la première secondaire à l'Institut Val des Anges à Isiro avec elle. Et puis moi, je suis partie. Celle-là, bon, elle est, bon, en tout cas, j'ai gardé de bons souvenirs d'elle. Oui, bon, dans les Bandundu, il fallait s'adapter à la langue et tout ça. Bon.
C'était l'unique bon souvenir pour vous?
Oui, je me souviens toujours d'elle parce qu'on rentrait toujours à 2 quand on partait à l'école. Et puis au Bandundu, on était à l'internat. J'avais beaucoup d'amis à l'internat. J'avais beaucoup d'amis, j'avais José, hein, la femme, la fille, la petite sœur de l'épouse du général Baonga, elle est pour le moment en Europe. Bon, et curieusement, un jour, je pars en mission à Isiro, ici, quand j'étais encore à la taxe provinciale ici, je pars à Isiro, on se retrouve avec un monsieur qui est venu de la Belgique en mission à l'hôpital de Pau, un médecin, c'est son mari. Et comme ça, dans la cause, il dit, oui, mais José, c'est mon épouse. Elle, quand elle a divorcé de son premier mariage, moi aussi j'ai divorcé de mon premier mariage, on s'est retrouvés, nous avons créé notre famille composée, on est heureux. J'étais très heureux de rencontrer son mari. Et d'autres que, dont j'ai perdu les noms. Hein.
Tant de bons souvenirs, mais les mauvais.
Et les mauvais souvenirs, hein. Les mauvais, c'est d'avoir raté le mariage. Vous savez, hein, les femmes de notre âge, là, de notre génération, je veux dire, et qui avions la chance... d'aller un peu plus loin à l'étude. Les hommes ne voulaient pas tellement de nous. Les hommes nous considéraient comme juste des fleurs pour les accompagner dans des lieux comme ça. Quand vous parlez en français, ça lui fait honneur. Je suis heureuse aujourd'hui que les jeunes se rencontrent à l'université et ils se marient sans problème. Mais nous, c'était difficile. Nombreuses de notre génération ont fini soit deuxième femme ou soit seule. Voilà un peu, c'est ça, avoir raté le mariage quand même, c'est pas bien. Et puis après aujourd'hui, bon, on est là plat.
Ça arrive, hein? Ouais. Tout à fait d'accord avec vous. Vous avez dit que vous avez fait le théâtre, avez-vous été vous-même actrice?
Oui, oui, à l'école déjà, à l'internat. J'étais même metteur en scène hein, parce que je faisais la mise en scène. Okay. De ces extraits, hein, de Guillaume Oyonumbia, par exemple. Hein? Trois prétendants et un mari. J'ai fait la mise en scène pendant la fête de l'école et j'ai fait jouer. Oui, je faisais ça quand j'étais à l'internat.
Vous avez joué plus quel rôle lorsque vous étiez obligé de jouer au théâtre? Quel rôle vous jouiez souvent?
Bon, en tout cas, je ne choisissais pas des rôles, mais on me confiait des rôles. J'ai joué avec Mwanangudi ici. Bon, il était journaliste ici, hein. Paix à son âme, il n'est plus. J'ai joué avec lui. J'ai joué avec mon jeune frère Magloire Bolunda. J'ai joué avec lui aussi. J'ai joué avec Papa Kimenya.
Oui, le professeur.
Le professeur Kimenya, j'ai joué avec lui également.
L'actuel recteur de l'université de Kindu.
J'ai joué avec lui. J'ai joué avec Femata, j'espère que avec les Mandikou, tout c'est vrai. Il y avait une effervescence culturelle dans la ville avec le centre culturel français, mais c'était terrible. Alors, c'est ça qui m'a donné une grande ouverture. Et c'est ça qui a fait que le directeur Lumeto de la RTNC me remarque. D'abord les amis, les Mwanangoudier, les Pepito qui animent aujourd'hui l'émission Libala Bosembo à Kinshasa. J'ai joué également avec lui. Alors, les Pepito là, ils ont dit, mais cette maman, elle a une bonne diction, notre sœur là. Elle a une bonne diction, on peut la recruter comme speakerine à l'OZ. Oui, j'étais speakerine.
À l'OZ RDT.
À l'OZ RDT, comme collaboratrice extérieure. Oui. Voilà, et c'est un peu ça, et j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a donné une grande ouverture. Et j'ai fait la connaissance de ces serviteurs de Dieu aussi. Qui étaient... J'ai vu jouer le professeur Maindo ici. Il a joué Montserrat ici à Mandombe, à ma présence. Et moi comme grande sœur. Et aujourd'hui, c'est lui mon formateur. C'est lui qui a fait de moi politologue. Ouais.
Oui, du théâtre à la musique, il n'y a qu'un pas. C'est quelle musique que vous aimez?
J'aime la rumba congolaise et j'aime beaucoup danser. J'aime aussi la musique traditionnelle. Oui, j'aime la musique traditionnelle. Et quand je vous entends les chants traditionnels pendant les cérémonies en famille, mais les gens n'en croient pas l'air.
Une idée, vous pouvez nous faire un a cappella, par exemple, d'une chanson traditionnelle. Ça pourra faire revivre, réveiller certains esprits, les gens qui ont oublié leur tradition. En quelle langue? Ça sera en quelle langue?
En Kibo, ça c'est ma langue. Écoutez, je suis Mbole de mon père et Mobwa de ma mère. Okay. Mais bon, j'ai grandi dans la culture de ma mère. Vous savez, la séparation des parents, ce sont les conséquences un peu. J'ai grandi totalement dans la culture de ma mère. Alors si je peux chanter, je chanterai par exemple... Don 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 ma kanfe ondo. Don don ma kanfe ondo. Motoma akbotona bamva endo. Angandele akbotona bekopi bando. Don 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 ma kanfe ondo.
C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire, hein? Appelle le chien. Appelle le chien. Quand tu vois quelqu'un se promener avec beaucoup de chiens, un jour, tu le verras se promener avec les léopards. Hein, c'est pour dénoncer un peu les sorciers.
Okay. Donc les boas se sont retrouvés dans ce champ-là.
J'espère qu'ils ont compris.
Alors, nous allons revenir un tout petit peu à la musique. Vous avez parlé des chants traditionnels, vous avez chanté quand même quelque chose en Kiboa. Mais vous avez aimé la rumba congolaise. Laquelle des musiques de la rumba congolaise vous préférez qu'on joue pour vous?
En tout cas, la rumba, vous savez, j'aime la rumba, la musique ancienne là. La musique ancienne, j'aime beaucoup. Souke na lingana motema bolingo ya liboma. C'était pas de mon âge, mais j'ai appris à aimer ça tellement c'est beau. Nakuta yo lisusu na mobali nakoki na kufa ngai ko falanga te odie nakosala koboni mbele na somba la mora souke die bena kiti sape motema. Voyez, hein? C'est très éducatif. C'est très éducatif. J'aime ça, j'aime bien Zaïko, parce que je suis de la génération Zaïko. Les Zekete, j'aime bien Zaïko. Et puis à un moment donné aussi, mais la musique d'aujourd'hui me fait très peur. Je ne sais pas, d'abord, beaucoup trop d'instrumentalisation, il y a très peu de paroles, et parfois les paroles nous échappent, vous ne savez pas ce qu'on veut dire exactement. Alors on se demande si ça peut encore éduquer vraiment. Si ça peut encore éduquer. Parfois, on mime la sexualité. Ça va pas.
Radio Capi, Grand Témoin.
Dans Grand Témoin aujourd'hui, André Kitenge reçoit Marguerite Niki Imayonda, ancienne présidente provinciale de l'AFDEL, province orientale, plusieurs fois ministre provinciale de la province orientale sous les gouverneurs Médard Aouchai et Jean Bamanissa, et députée nationale honoraire.
Qu'est-ce que nous n'avons pas parlé dont vous avez voulu qu'on parle?
On n'a pas parlé des rivalités au sein des partis politiques. Vous savez, j'ai toujours aimé la compétition, ce n'est que normal. Mais si on pouvait aussi comprendre que à chacun ses mérites, il y aurait moins de rivalités. Il y aurait moins de rivalités. Aujourd'hui, dans les partis politiques, tout le monde veut devenir tout le monde. Tout le monde veut devenir ministre. Tout le monde veut devenir ceci, cela, sans tenir compte du profil de chacun. Et c'est ça le comble. Et c'est ça, ça fait qu'on se rivalise à tout moment, on arrive même à s'entretuer, c'est bien triste. Mais si on pouvait accepter chacun selon ses mérites, je crois que chacun se mettrait à la place qu'il lui faut, et ça irait mieux. Ça irait mieux. Je ne crains pas la compétition, mais cet entretien de haine inutile, sans raison, simplement parce qu'on ne veut pas de la tête de quelqu'un, ça ne nous sert pas beaucoup. Voilà.
Niki Imayonda Marguerite, Magui pour les intimes, vous avez été plusieurs fois candidate gouverneur hein, de la province de la Tchopo ou de la province orientale à l'époque.
De la Tchopo, deux fois seulement, deux fois. En 2017, après ma démission du PPRD, je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Et j'avais même trouvé du soutien, tout ça. Et j'ai été invalidé. La raison, je n'ai pas démissionné. Mais une semaine après, ici, dans la salle de la Fraco, un cadre du parti va déclarer « Maman, Niki a démissionné, on a pris acte de sa démission. Personne ne peut vous empêcher de quitter le parti ou de revenir. » Alors, je suis resté étonné. « Ah bon ? » Donc, il savait que j'ai démissionné. Mais pourquoi on m'a invalidé ? Mais je n'ai pas fait trop de bruit parce que, bon, c'est question de rapport de force. Hein. Je me suis tué tout simplement. Et il y a eu des personnes hypocrites qui m'ont félicité. Tu as bien fait, tu n'as rien. Voilà, et c'est comme ça. Et en 2018, je voulais m'essayer encore. Mais bon, les choses ne se sont pas passées correctement. En 2018, hein, les choses ne se sont pas passées correctement. Bon, j'ai laissé tomber. Maintenant, avec l'ampleur de la corruption au niveau de l'institution, et Parlement provincial, Assemblée provinciale, ah, je n'oserais pas. Parce que là, il faut avoir de l'argent, il faut donner de l'argent aux députés pour vous choisir. Ce n'est un secret pour personne. C'est bien dommage. Comme ça.
Quel est ce grand homme politique qui vous inspire à faire tout cela? Avez-vous un modèle, une référence?
J'ai travaillé avec Aouchai, j'ai travaillé avec Bamanissa, mais d'abord, avant que je ne devienne femme politique, j'ai travaillé avec Sampa Sakaweta Milombe, j'ai travaillé avec Samba Kaputo, mais j'ai pris conscience de la politique quand j'ai travaillé avec Aouchai et quand j'ai travaillé avec Bamanissa. Et aujourd'hui, ma référence, c'est Bamanissa. Comme, en tout cas, un bon manager pour moi, c'est lui.
Mais vous n'êtes pas à ses côtés?
Bon, déjà, quand il venait, moi, je n'étais pas avec lui. Mais j'ai apprécié sa façon de travailler. On n'est pas nécessairement obligé d'être dans la même barque pour donner un bon rendement dans le travail que l'on vous donne. Il était du MLC ou indépendant, je crois. Moi, j'étais dans le PPRD et il a apprécié aussi ma façon de travailler. Oui. Ça, on n'est pas obligé d'être toujours dans le même parti politique, tout ça. Quelqu'un, votre chef, est d'un autre parti politique, il vous confie une responsabilité, il faut le faire pour l'honorer.
Jean Bamanissa Saïdi, votre référence, votre modèle, qu'est-ce que vous lui direz là où il est présentement?
En tout cas, et là où il est, je souhaiterais qu'il continue d'aimer sa province, la province de la Tchopo, la province orientale, et surtout qu'il soutienne des valeurs de la province qui veulent servir en politique. Parce que ce n'est qu'en politique, c'est là où on prend des décisions. Quand vous n'êtes pas là où on peut prendre des décisions, vous ne pourrez rien faire pour votre pays. Or, dans notre province, il n'y a pas vraiment de mécènes. Dans d'autres provinces, il y a des mécènes qui soutiennent les jeunes politiques qui émergent. Mais chez nous, non. qui deviennent mécènes pour l'émergence des jeunes politiques qui représentent une certaine valeur pour l'avancement de notre province. C'est ce que je peux lui dire.
Et vous-même, vous êtes une femme de référence. Que diriez-vous à d'autres femmes qui vous suivent en ce moment comme grand témoin?
Merci beaucoup. Et la femme doit acquérir un comportement politique. Vous savez, même les hommes dans le temps, dans les pays occidentaux, par rapport aux élections par exemple, il y avait que des nantis qui pouvaient voter, voyez-vous. Mais quand les hommes, les ouvriers, ont pris conscience que c'est eux qui produisent, c'est eux qui observent tout ça, des failles dans le comportement de ceux qui ont de l'argent, il faut que ce soit eux qui choisissent, ceux qui peuvent diriger. C'est ça la conscience politique. Aujourd'hui, dans toutes les ligues des femmes, qui sont des structures assez importantes avec des missions bien précises, les femmes s'imaginent tout simplement que quand une autorité hiérarchique du parti arrive, il faut courir, danser, il faut demander que l'on vous donne de l'argent ou de pagne et ça s'arrête là. C'est comme si elles n'ont pas de vision. Elles n'ont pas de vision. Et je souhaiterais que la femme de ce pays, pour représenter une alternative sûre, respectable, doit vraiment prendre à bras le corps la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre la corruption et en faire son affaire. C'est ça la vision. Mandela, il s'est dit que non, je suis sûr qu'en Afrique du Sud, on peut vivre en harmonie entre les deux races. Il s'est accroché à cette vision et il est arrivé au bout. Il faut que la femme se confectionne une vision. C'est ça la politique. Si vous n'avez pas de vision, alors vous venez faire quoi en politique? Chanter, danser, attendre qu'on vous donne des pagnes. Je voudrais que la femme soit vraiment, se mette vraiment sur le pied de guerre contre la corruption, contre les antivaleurs dans ces pays, pour donner un sens à la vie dans ces pays. Parce que c'est devenu, ces antivaleurs, ces fléaux est devenu d'une ampleur incroyable. Et nous ne savons pas ce que seront nos enfants demain, parce que les enfants commencent à trouver la tricherie normale. Alors que sous d'autres cieux, quelqu'un qui a triché à l'école, quand il tente, ça nous avons appris des États-Unis, le frère cadet de Kennedy, qui avait triché seulement dans un cours de langue. Quand il voulait, il prétendait devenir gouverneur de son Dallas natal ou je ne sais pas moi. On lui a dit non, vous avez été tricheur. Donc ce que nous faisons à l'école là. J'ai vécu la tricherie sur l'université. C'est effroyable. C'est comme si c'est devenu des valeurs. C'est bien dommage.
Niki Imayonda Marguerite, Magui pour les intimes. Merci.
C'est moi qui vous remercie sincèrement. Vous m'avez fait beaucoup parler aujourd'hui.
Allez, à la prochaine.
Merci beaucoup, M. André Kitenge.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation André Kitenge, coordination et réalisation Alain Rong-Mouchinge, supervision Jean-Marc Matouaki. Vous pouvez réécouter, voire télécharger cette émission et plusieurs autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir.